c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, l'armée malienne pourrait-elle seule endiguer la menace terroriste ?
Oui, c'est ce que pensent les autorités maliennes, la junte au pouvoir à Bamako, qui a non seulement rompu les accords de défense signés avec Paris, mais qui s'est aussi retirée la semaine dernière du G5 Sahel, la force créée en 2017 dans la zone dite des trois frontières, à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Sahel faisant l'objet d'un millefeuille sécuritaire, une mission de l'ONU y est également présente, la MINUSMA, chargée non pas de combattre les groupes djihadistes, mais de protéger les populations civiles. Son mandat à elle aussi est en suspens. Il sera débattu en juin aux Nations Unies. Alors, quelles conséquences opérationnelles de ces retraits en cascade ? Les forces armées maliennes sont-elles aussi préparées qu'elles le disent à affronter les groupes terroristes ? La Russie peut-elle à elle seule les y aider ? Il est minuit 44 à Washington où vous êtes, Andrew Leibovitch. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé en politique et sécurité du Sahel et du Maghreb au Conseil européen des relations internationales, qui est donc basé à Washington. Alors, on n'a pas encore évoqué dans les enjeux internationaux la sortie du Mali du G5 Sahel. Comment réagissent les quatre autres, les pays voisins ? Est-ce qu'ils ont essayé de convaincre Bamako de rester dans la force commune ou c'est une occasion pour eux de réfléchir à des alternatives ?
Alors, pour le moment, ça reste un peu divisé entre les quatre membres du G5 qui restent dans les institutions. Par exemple, le Tchad, qui tient toujours la présidence du G5, a envoyé une lettre et aussi un émissaire du président, le président de la transition, à Bamako pour discuter avec les autorités maliennes. Et aussi, le gouvernement de la Mauritanie a dépêché un envoyé d'haut niveau afin de discuter et afin de faire une sorte de plaidoyer pour que Bamako revoie la décision et revenir dans les institutions du G5, y compris la force conjointe. Mais c'est bien connu qu'effectivement le Niger reste très sceptique par rapport au gouvernement de transition à Bamako. Et le président du Niger, Mohamed Bazoum, a beaucoup critiqué dans le passé et même bien récemment les actions et le comportement de cette transition sur les questions sécuritaires, mais aussi politiques.
C'est vrai que le Mali et le Tchad sont dans deux situations très différentes. Le Tchad aussi avait retiré la moitié de ses effectifs l'année dernière, 600 hommes retirés sur 1200 au sein de la G5 Sahel, mais c'était après une attaque très violente lancée par le groupe Boko Haram qui avait fait 26 morts parmi les soldats tchadiens. Mais le conseil militaire tchadien a besoin de l'appui financier et diplomatique français et international, donc il est très peu probable qu'il aille plus loin dans ce désengagement. Mais quelles sont d'ores et déjà les conséquences opérationnelles immédiates de ces retraits progressifs du G5 Sahel?
Pour le moment, ça sera un peu difficile de dire s'il y a des conséquences, parce qu'effectivement, on pouvait dire même avant tout cela que le G5 n'existait pas vraiment, que ce n'était pas vraiment fonctionnel au niveau opérationnel, même s'il y avait des opérations conjointes entre certains partenaires du G5. On ne pouvait pas dire que la force conjointe fonctionner en tant que force comme le MNGTF contre Boko Haram. C'était pas du tout une situation pareille. Et donc, pour le moment, on ne peut pas vraiment constater des conséquences sur le terrain de cette décision. Mais à la fois, ça montre à quel niveau les relations restent tendues entre les pays de la région et à quel niveau il y a des vrais défis, des vrais problèmes entre le Mali et ses voisins, dans une période où la situation sécuritaire reste extrêmement difficile et extrêmement dangereuse et continue à se dégrader.
Et l'ONU ne cesse de dire que le G5 Sahel manque de matériel, par exemple, de coordination aussi. C'est un spécialiste en stratégie militaire qui se rappelle, par exemple, un colonel mauritanien qui n'avait jamais pu entrer en contact avec son homologue malien sur un terrain. Donc c'est quoi l'avenir, l'alternative en fait de ce G5 Sahel ? Le colonel Maïga, le colonel malien, a indiqué que les relations bilatérales avec les pays membres du G5 resteraient maintenues. C'est ça donc l'alternative ? Ce sont des coopérations bilatérales pays par pays ?
Alors, on peut pas dire vraiment que c'est une alternative, mais oui, à la fois, on peut dire que un des résultats qui sont peut-être plus optimiste, ou peut-être plus optimiste sur la coopération bilatérale. C'est un des résultats du G5, c'est une certaine amélioration de coordination entre les pays. Et comme je disais tout à l'heure, on a pu constater certaines opérations conjointes entre, par exemple, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, on peut dire qu'il y avait été une certaine amélioration de ces relations-là, mais quand même, c'est un bilan qui est très
contrasté.
Très limité.
Très limité et contrasté. Le président nigérien a effectué une visite au Nigeria fin mars aussi pour discuter d'un cadre commun de sécurité entre les deux pays. Donc au-delà du G5 Sahel qui lui fonctionne encore grâce au soutien de Barkhane et de la MINUSMA, la force internationale de l'ONU. Mais pour combien de temps, puisque les existences et de l'une et de l'autre sont précaires, sur quoi doivent tourner les prochaines discussions à l'ONU sur l'avenir de la MINUSMA? Ce sera fin juin. Elle compte aujourd'hui 14 000 soldats, policiers et civils. Ce sont des discussions auxquelles participeront tous les membres du Conseil de sécurité, dont la Russie, de plus en plus présente au Mali. Donc, quel sera l'enjeu fin juin, Andrew Leibovitch?
Alors, en ce moment, plusieurs enjeux qui sont en discussion, parce que de l'un côté, il y a des discussions qui vont se dérouler à l'ONU, à New York, mais aussi il y a d'autres discussions qui se déroulent à New York, mais aussi en Europe et dans plusieurs autres pays. Pour les discussions à New York, ça sera de l'un côté la question du mandat. Donc, est-ce qu'il faut de l'un côté renforcer le mandat? Est-ce qu'il faut ajouter d'autres éléments, par exemple, comme le Mali a toutefois et continue à exiger pas seulement un durcissement du mandat, mais un mandat qui est spécifiquement contre-terroriste. De l'autre côté, il y a aussi la discussion de comment renforcer les capacités de la MINUSMA, qui se déroule pas seulement à New York, mais ça c'est un peu plus compliqué parce qu'on a déjà constaté le fait, par exemple, le Bénin qui a décidé de retirer ses troupes de la MINUSMA. On a aussi le contingent suédois qui va prendre le départ bien avant que c'était prévu. Et aussi l'Allemagne qui est fixée à certaines conditions, y compris par exemple le fournissement des hélicoptères de combat et la continuation de la présence allemande va se baser en partie sur ces conditions-là.
L'Allemagne, c'est aussi 1100, un peu plus de 1000 hommes sur le terrain.
Oui, mais il y a un commissaire en entier qui va augmenter le contingent par 300 personnels.
Alors, quand la force internationale de l'ONU, donc la MINUSMA, déplore par ailleurs des conditions d'accès au terrain plus restrictives qu'avant, de quoi parle-t-elle? Est-ce qu'on a une idée de mission écourtée, compromise? Quels exemples concrets sont remontés du terrain?
Donc, par exemple, les vols de la MINUSMA sont aujourd'hui, ils sont obligés de demander la permission des autorités maliennes 72 heures en avance. Pour dépendre. Et aussi, il y a une zone qui est totalement et strictement interdite aux avions de la MINUSMA et d'autres avions qui ne sont pas les avions de l'armée malienne. Et de l'autre côté, aussi les patrouilles de la MINUSMA qui ont été bloquées. Par exemple, la semaine passée, les autorités maliennes ont dit non à une demande de la MINUSMA, par exemple, de sécuriser le marché, la foire hebdomadaire de Géné, la ville au centre du Mali. Et aussi, on a vu que les enquêteurs de la MINUSMA sont toujours bloqués et n'ont toujours pas la permission d'enquêter sur ce qui est arrivé à Moura, la site de grand massacre. Et on a dit, plusieurs sources disaient clairement, les massacres des civils, ou une grande partie des civils, par l'armée malienne et aussi les personnels de Wagner, les mercenaires russes. Et donc, il y a plusieurs exemples de ces conditions et des contraintes qui sont très très durs et très difficiles pour la MINUSMA.
Voilà. Le Mali. À Moura, dans le centre, au moins 300 personnes tuées et plusieurs témoins confirment des exécutions de masse visant des civils désarmés.
Le Mali peut-il se défendre du terrorisme sans ses alliés historiques? L'invité des enjeux internationaux est ce matin le chercheur Andrew Leibovitch.
Andrew Leibovitch, aujourd'hui, les forces armées maliennes, les FAMA, est-ce qu'elles sont pleinement opérationnelles? Est-ce qu'elles sont suffisamment équipées? Est-ce qu'elles réussissent à protéger les populations partout pour s'offrir ce luxe-là de se priver du soutien de la MINUSMA, de Barkhane et d'autres forces qui se sont proposées?
Non, je pense que ça sera, même si on a pu on a pu constater une certaine augmentation des effectifs et certaines améliorations des capacités des forces armées maliennes, mais à la fois, non, c'est clair que leurs capacités ne sont pas au niveau d'endiguer le terrorisme dans le pays. Et on a vu une certaine continuation des attentats et même une accélération des attentats dans plusieurs parties du pays, y compris le nord du pays, en particulier dans la zone de Manaka, mais aussi surtout au centre, qui est la site d'une opération d'envergure de la part de l'armée malienne. Mais on a vu cette continuation des attentats contre les autres forces. Et donc, oui, pour le moment, c'est très très difficile de dire qu'ils se trouvent dans une position vraiment de faire face à cette menace.
L'armée malienne, elle est plutôt située aujourd'hui au centre et au sud du pays, mais ailleurs, l'État islamique au Grand Sahara, par exemple, peut s'épanouir à la frontière avec le Niger, notamment dans la région de Menaka. La Russie, quel soutien aujourd'hui opérationnel apporte-t-elle dans le cadre d'un partenariat, disons, classique? Là, on ne parle pas de Wagner. Quand Sergueï Lavrov dit que Moscou continuera à livrer des équipements, des munitions, des armements, jusqu'à quel point les forces armées maliennes comptent sur l'allié russe?
Alors, là, c'est une question difficile parce qu'il faut se distinguer entre ce qui est confirmé, par exemple, par les autorités maliennes, et plutôt ce qui est dans les rapports, mais c'est très, très difficile parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas beaucoup de preuves concrètes sur le terrain des opérations de Wagner, par exemple. Il y a beaucoup de rapports locaux, il y a des informations qui ont été données, par exemple, par les autorités françaises, mais la seule chose qui est confirmée par le gouvernement malien, par exemple, c'est la présence des Russes qui sont plutôt censés être les formateurs, qui sont présents à Tombouctou, par exemple, et dans d'autres endroits du pays. Il y a aussi des rapports qui fixent les Russes dans plusieurs endroits du centre du Mali, et aussi à Bamako, à l'aéroport, par exemple. Mais, comme je disais, c'est très difficile, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues et qui sont très, très difficiles pour nous les chercheurs, par exemple, de confirmer, même pour les journalistes aussi.
Et notamment sur la présence de Wagner, on ne sait pas dans quelle mesure les combattants de Wagner sont partis en Ukraine depuis le début de la guerre et ont quitté le Mali. Je vous remercie en tout cas beaucoup, Andrew Leibovitch, d'avoir été en direct avec nous depuis Washington. Et je rappelle que vous êtes chercheur associé en politique et sécurité du Sahel et du Maghreb au Conseil européen des relations internationales.
Merci. Merci les enjeux, beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.